Bonjour à tous. Il fait frais, hein, par rapport à hier. Voilà, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour ces moments ensemble. Seigneur, nous abordons un sujet qui est peut-être difficile à appréhender complètement. Seigneur, tu dis que l'Église est un mystère dans ta parole. Mais en réalité, Seigneur, tu as dévoilé cette Église page après page, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, et nous voulons prendre encore un peu de temps pour comprendre véritablement de quoi il s'agit. Seigneur, ce plan merveilleux que tu as pour ton peuple, Seigneur, ce rassemblement des enfants de Dieu sur la terre et dans le ciel, ceux qui t'ont connu depuis le début, ceux qui sont morts en toi et ceux qui sont encore sur la terre, Seigneur, qui ne forment qu'un seul corps. Et Seigneur, c'est toi qui en es la tête, et c'est aussi toi qui es le créateur de toutes choses. Et Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que nous regardons à ces choses, parce que comment est-ce que la créature, comment est-ce que le vase que tu as fabriqué peut vraiment comprendre ce que le concepteur et le créateur avaient dans la tête. Seigneur, mais tu nous as donné des choses à découvrir. Et dans ces choses-là, nous voulons avancer. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit grand ouvert pour que nous puissions comprendre les merveilles des choses que tu as faites. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors j'étais content d'apprendre que nous étions assimilés à des poulets ce matin. La prochaine fois que je mangerai du poulet, je réfléchirai à ce que tu as dit. N'est-ce pas ? Peut-être que j'en mangerai plus d'ailleurs, parce que si ce sont des êtres aussi spirituels... Eh bien, peut-être qu'on ne devrait plus manger de poulet, n'est-ce pas? Je pense que les véganes seraient contents de m'entendre. Voilà. Alors, la première... session, rapidement, j'avais établi que la silhouette diffuse de l'Église était déjà présente dans la Genèse et notamment dans le Jardin d'Éden. Et notamment lorsque, dans Genèse 2, 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront et ils deviendront une seule chair », et bien donc ça s'applique à Éphésiens aussi, où Paul reprend ça dans Éphésiens 5. C'est pourquoi, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Donc c'était déjà présent dans la pensée de Dieu. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas, l'idée, la volonté de Dieu dès lors était de tout faire pour pouvoir reconnecter sa création avec lui-même, avec le Créateur. Et donc on avait vu qu'il y avait la nécessité qu'il y ait une union, qu'il y ait aussi un lieu ou un endroit où on demeure ou demeurer. Et c'est valable pour le croyant, mais c'est aussi valable évidemment pour l'Esprit de Dieu. Et puis, bien sûr, la rencontre. Il faut une rencontre avec Dieu. Et donc, l'Église est bâtie sur ces trois fondations que je viens de citer. Dieu a toujours souhaité un peuple spécial, choisi par lui. En tout cas, c'est de cette façon qu'on le voit dans l'Ancien Testament, un peuple mis à part. Et un peuple qui soit complètement différent des nations environnantes. Et si je l'applique aux chrétiens individuellement, eh bien c'est valable aussi, n'est-ce pas? Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui sont à part pour lui et qui sont complètement différents de leurs voisins, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle du mystère de l'Église, il ne parle pas de quelque chose dont on ne comprendra jamais l'entièreté. Il parle de quelque chose qui a été dissimulé au départ, n'est-ce pas? Et ensuite d'une progression qui nous amène à la découverte de ce mystère. Et la découverte, c'est le Nouveau Testament, c'est la naissance de l'Église par le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est pas, n'est-ce pas, quelque chose que seuls les initiés peuvent comprendre. Quand on parle de mystère, c'est souvent comme ça qu'on le... voilà, il y a un secret, et puis il y a seulement quelques-uns qui vont le découvrir. Non, l'Église est quelque chose qui doit être découvert par tout le monde. Et donc on a dans la Bible une révélation qui est progressive sur le mystère de l'Église. Et donc, si on va dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 12, alors ce sera bien de chercher dans vos Bibles parfois, même si on a Monsieur Vidéoprojecteur qui est là. Merci, jeune homme. Parce qu'il y a des fois des termes qui... Les traducteurs ont fait des choix qui parfois sont heureux et parfois un peu moins dans les choses qu'on va lire. Et donc, ça vaut la peine de voir les autres possibilités pour certains mots. Et donc, dans la Genèse, on lit que l'Éternel, que Dieu, Yahvé, rencontre Abraham dans Genèse 12 et il va lui faire sa... une promesse qui, pour la première fois, parce qu'il va répéter cette promesse après, mais là, on va le lire. C'est la première fois qu'il fait, je crois, la promesse. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction qui est mondiale. Les musulmans, cela sont appropriés aussi, n'est-ce pas? Pour eux, Abraham est le père de tous les musulmans. C'est comme ça qu'ils le considèrent. Et c'est pas étonnant, n'est-ce pas? Puisque vous savez qu'après cette bénédiction, Abraham, qui avait une femme stérile, s'est dit « je vais aider Dieu dans ce qui est prévu, c'est-à-dire je ferai de toi une grande nation. Comment est-ce qu'il va faire de moi une grande nation si je n'ai pas d'enfant ? Eh bien, je vais me débrouiller pour en faire. » Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, Ismaël est né de la relation avec Agar, sa servante, et Ismaël a été béni par Dieu. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça que aujourd'hui, Abraham est le père d'une grande nation qui comprend finalement le peuple juif, le peuple arabe et aussi l'Église par extension. Et donc, moi je ne sais pas comment Dieu va gérer ces choses-là, mais la bénédiction existe, on ne peut pas nier ça et on doit l'accepter. Et Abraham est véritablement ce pilier. Et évidemment, cette histoire, elle vient avant la réception de la loi pour le peuple d'Israël. Donc, c'est une alliance qui est particulière et donc qui va, en tout cas en ce qui nous concerne, se finir au mont Sinaï, lorsque Dieu va réunir le peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte. Il va réunir le peuple d'Israël au mont Sinaï. Moïse va monter sur la montagne et recevoir la loi qui va faire d'Israël le peuple de Dieu. C'est pas une autre alliance est contractée à ce moment-là. Donc, 3 mois après la sortie d'Égypte, on va le lire dans Exode 19. Verset 4, Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. À partir de la réception de la loi au mont Sinaï, le peuple d'Israël est devenu ce qu'on peut appeler l'Église de Dieu, l'Ecclésia de Dieu. Je vous l'ai dit vendredi dans la traduction des Septante, qui était la traduction lue couramment lorsque Jésus était là sur la terre, y compris par les apôtres. Dans cette traduction de la Torah ou de l'Ancien Testament qui était écrit initialement en hébreu, il y avait une traduction grecque qui était celle-là qu'on lisait. Eh bien, le terme kahal, qui signifie assemblée, est traduit par église dans la Septante. Et donc, le terme église, finalement, n'est pas un terme étranger, à la tradition juive. Mais c'est aussi un terme très commun, qui signifie rien d'autre que regroupement, rassemblement. Alors, quand on parle d'église de Dieu, on le rend religieux, mais en réalité, c'est un terme du commun. Mais ce rassemblement indique qu'il y a là un peuple spécial, une église de Dieu, un rassemblement de Dieu, la congrégation de Dieu. Et aussi que il y a une alliance, un contrat entre Dieu et le peuple, qui est basé sur l'obéissance, n'est-ce pas ? Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, basé sur l'obéissance et sur la confiance en Dieu, n'est-ce pas ? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est pas vrai, hein ? Ils n'étaient pas sur des ailes d'aigle. On ne peut pas le prendre littéralement, vous êtes d'accord ? Mais c'est beau. Mais pourtant, c'est une image, n'est-ce pas, qui est donnée. C'est-à-dire que Dieu les a amenés de façon miraculeuse à l'endroit où ils sont. Il les a fait sortir de façon miraculeuse du pays d'Égypte. Donc, si on essaye juste, c'est difficile, mais si on essaye de se remettre dans le contexte de l'époque, où vous aviez des peuplades avec leur propre Dieu, leur propre fonctionnement, ça existe encore pas mal aujourd'hui dans certains pays du Moyen-Orient, où la notion de clan, la notion de tribu est très très présente encore aujourd'hui. Vous avez en Irak des tribus partout. Et quand vous circulez en Irak sur certaines routes, tout d'un coup, vous avez un convoi de Toyota 4x4 de dimension que vous ne trouvez pas en Europe qui sont derrière vous. Et vous avez une demi-douzaine de voitures avec une grosse voiture au milieu. Eh bien, c'est le chef de la tribu qui est dans la voiture. Les autres, ce sont les gardes du corps, les hommes de main, qui font tous partie de la tribu. Et vous, vous dégagez la route parce que sinon, on vous sort. Ce fonctionnement, il existe, il est ancré depuis des siècles. C'est un fonctionnement tribal. Et ça, c'est ce qui se passait autour, dans ces endroits, il y avait donc les clans, les tribus. Et imaginez que, au milieu de cela, il y a ce peuple qui arrive, qui est transporté de l'Égypte, un peuple qui était inconnu de tous, n'est-ce pas ? 400 ans en Égypte, le seul endroit où ils étaient connus, et pas nécessairement comme un peuple, c'était en Égypte. Et de là, Dieu les a transportés là où ils sont. Et il se passe un événement absolument incroyable. Eh bien, ils reçoivent, par communication de leur Dieu, ils reçoivent une loi, ils reçoivent des recommandations. Il y a un aller-retour entre Moïse et Dieu et le peuple. Dieu parle à son peuple. Et ça, c'est quelque chose qui était absolument inimaginable, inconnu pour ces gens autour d'eux, pour ces nations. Et donc, c'était très impressionnant et c'était peut-être même terrifiant, en fait, pour eux, de savoir qu'il y avait là un Dieu aussi puissant que ça et que ce Dieu-là, c'était le Dieu de ce peuple en particulier. N'est-ce pas ? Ils avaient sans doute appris ce qui s'était passé en Égypte. Comment toutes les plaies d'Égypte, qui était une manifestation absolument extraordinaire de la puissance de Dieu. Et donc, là, dans le désert, au bas du mont Sinaï, il y a un événement absolument incroyable. Le peuple était là, destiné, par sa présence, à manifester aux nations la gloire de Jéhovah, son caractère, sa force. Ils étaient en quelque sorte les témoins de Jéhovah. Mince. J'avais il y a très longtemps, 30 ans, un enseignant en Angleterre, un pasteur, et il dit que lorsque les témoins de Jéhovah frappent à sa porte, il leur dit oui, mais c'est bien tout ça, mais vous savez que Christ, enfin, vous dites que c'est pas Dieu, qu'il n'est pas Dieu, mais en réalité, lorsque Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés aux quatre coins du monde, et il leur a dit, vous serez mes témoins, donc les témoins de Jésus. Comment est-ce que vous expliquez ça, s'il n'est pas Dieu ? Les témoins de Jéhovah, c'est l'Ancien Testament. Les témoins de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Et donc, il dit, depuis, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Le monsieur en question s'appelle Ron Bailey. Toi, tu le connais. Et donc, vous serez, pour moi, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Rappelez-vous ces mots, on va y revenir parce qu'on les retrouve dans le Nouveau Testament. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Les rôles n'avaient pas encore été distribués dans le peuple. Et quand Dieu dit ça, il ne dit pas qu'il n'y avait pas aussi une tribu qui serait consacrée au service dans le temple, n'est-ce pas ? Il ne leur dit pas, vous serez tous spectateurs et il y aura une tribu qui sera sacrificateur et vous ferez ce qu'ils vous diront de faire. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Il leur dit, vous êtes pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte dans l'ensemble. Et ensuite, Dieu rajoutera une tribu pour s'occuper à temps plein de la sacrificature. Et donc, au travers de cette première église qui est l'église de Dieu, qui en fait n'est pas du tout les prémices de l'église que nous connaissons aujourd'hui, mais qui est l'église de la première alliance, d'une certaine manière, l'église de Dieu, eh bien, on a quand même une forme prophétique de ce que sera l'église plus tard. On va lire dans Éphésiens 1, dans l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. C'est pourquoi Éphésiens 1. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On a ce terme, révélation, on en a déjà parlé vendredi, c'est un terme qui est clé dans toute l'histoire de l'Église. Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors j'insiste, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. J'insiste parce que ce n'est pas, dans le verset 17, la sagesse et la révélation de la connaissance que vous avez de lui, c'est la révélation de sa connaissance à lui. Dans le verset 18, qui s'attache à son appel, à l'appel, à pas à votre appel, pas à mon appel, qui s'attache à son appel, celui de Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? Pas votre héritage, vous et moi, on est héritiers, co-héritiers avec Christ, n'est-ce pas ? Mais il ne parle pas de ça dans cet endroit, il parle de l'héritage de Christ. Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage de Christ dans les saints ? Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous, à cet endroit ? J'ai lu son héritage dans les saints. Qu'est-ce que vous avez, vous ? Qu'il réserve aux saints ? Voilà. Donc là, c'est déjà un endroit où la traduction n'est pas nécessairement un bon choix. Il y a d'autres traductions qui sont plus conformes à l'idée que je viens d'énoncer. C'est son héritage dans les saints et pas qu'il réserve aux saints. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est sa puissance et sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le laissant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà. Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et si vous allez dans, vous gardez cette idée dans la tête, hein, et vous allez dans psaume 2, au verset 8, vous lisez, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. » Les extrémités de la terre pour possession. N'est-ce pas, ça rejoint la promesse faite à Abraham, mais aussi c'est ce que Jésus a reçu sur la croix. Son héritage, c'est nous, c'est l'Église. Son héritage, c'est ce que Dieu a réservé pour lui. Et c'est à la croix que Jésus a reçu l'héritage qu'il a demandé. Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je veux mon héritage. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église qui est prophétisée. Ensuite, allez dans Ésaïe. Chapitre 6, et on va lire le verset 8. À partir du verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. » N'est-ce pas, vous rappelez, vendredi, on a dit que lorsque Adam a péché, la voix de Dieu s'est élevée dans l'univers, d'une certaine manière, et il a crié, « Adam, où es-tu ? » Adam a répondu, il dit, j'ai peur, je suis caché. Mais en réalité, il n'y a pas eu de réponse, n'est-ce pas ? La réponse, c'était la réponse de la peur. Ce n'était pas la réponse que un enfant va donner à son père lorsqu'il est content de le voir et le prendre dans ses bras. Je suis là, papa, je suis là. C'est la réponse n'avait plus aucun intérêt pour Dieu, n'est-ce pas ? Adam, où es-tu ? Et depuis Ce temps-là, cette voix de Dieu criait, « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ?» Et dans Ésaïe 6, il y a à nouveau une réponse. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce n'est pas Ésaïe qui répond. C'est l'Esprit de Dieu qui répond. C'est Christ qui répond. « Me voici, envoie-moi. » Et, n'est-ce pas, pendant longtemps, Dieu aussi a crié sur la surface de la terre, « Adam, Joël, Brigitte, Jeannot, Serge, où es-tu ?» Et pendant longtemps, il n'y a pas de réponse à cette question. Pendant longtemps, on ne répond pas. Ou alors on dit à Dieu, mais j'ai peur, je me cache. Je suis trop honteux de ce que je suis, de ce que je fais. Mais à un moment, il arrive, lorsque la rencontre avec Dieu se fait, il arrive que, alors l'homme, la femme répond, « Me voici, envoie-moi. » Qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi ? Me voici, envoie-moi. Et donc, dans Ésaïe, c'est Jésus qui répond. C'est l'Esprit de Dieu qui répond. C'est la pureté qui répond. Il faut lire tout le contexte aussi. Et donc, finalement, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est aussi le premier disciple, d'une certaine manière. C'est le disciple de Dieu. Et on voit ça dans Ésaïe 50. Donc là, on se rapproche de ce qu'on appelle la section des chants du serviteur, ou les cantiques du serviteur. Donc qui parle de Jésus, bien sûr. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alors là aussi, qu'est-ce que vous avez comme traduction à « L'Éternel m'a donné une langue » Exercer, tout le monde. Ok. Alors, peut-être certains d'entre vous avaient une petite note qui dit une langue exercée littéralement, une langue de disciple. Ok ? Donc c'est plus conforme de le dire comme ça, parce que c'est important, c'est la prophétie. Et tout se noue avec ces termes-là. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple. Parce que derrière, il se joue la définition du disciple, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a des définitions de disciples, c'est comme pour les définitions de l'Église, on ne sait plus où on va. Mais la parole de Dieu est assez claire sur ce qu'est un disciple. L'Éternel m'a donné une langue de disciple, pourquoi ? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et on sait, n'est-ce pas, que Jésus, tous les jours, chaque matin, recevait de Dieu ses instructions. Il ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était ce que Dieu lui donnait de faire. Il entendait la voix de Dieu. Il avait une oreille qui entendait. Il éveille mon oreille de disciple. Donc le premier disciple, c'était Jésus. Et il était aussi prophète de Dieu. N'est-ce pas ? Il vivait de la bouche de son Père. Il prononçait les paroles venant de Dieu. Là aussi, quand on utilise aujourd'hui le terme de prophète, on a peur parce qu'on se demande de quoi on va parler. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Un prophète, c'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui ensuite la donne, qui entend parler la bouche de Dieu et qui prononce ses paroles dans l'assemblée. N'est-ce pas ? Nous sommes censés vivre de la bouche de Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est la bouche de Dieu qui nous fait vivre. Ce n'est pas notre porte-monnaie. Ce sont les paroles de Dieu, la bouche de Dieu. Est-ce que nous entendons Dieu ? Et en ce sens-là, nous sommes tous des prophètes. Si nous entendons Dieu parler, si nous avons l'oreille habitués à entendre la voix de Dieu, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et lorsque on parle, lorsque on soutient par la parole celui qui est abattu, c'est avec la parole de Dieu qu'on a entendu qu'on va soutenir celui qui est abattu en fonction de ce qui est sa difficulté, son problème. Et c'est ça, être prophète. Ce n'est pas un type qui se lève sur une chaise ou sur une tribune et qui donne des prophéties à l'Église. Quelle Église, d'ailleurs ? L'Église universelle ? Ou son Église ? Pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Donc, dans un premier temps, il parle de la langue de disciples, et ça concerne Jésus. Et ensuite, il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et là, c'est nous qui sommes concernés. Écoutez Dieu. C'est ce que nous devons faire tous les jours, toutes les nuits. En fait, passer notre temps à écouter Dieu, c'est ça qui devrait être notre quotidien, pour que nous puissions avoir une parole adaptée pour celui qui est abattu. Est-ce que seulement nous remarquons quand quelqu'un est abattu à côté de nous? Est-ce que seulement nous le voyons? Ou alors est-ce qu'on se dit, bon, ben, la vie est dure pour tout le monde, hein, tu te débrouilles. Hein? J'en ai assez avec mes propres problèmes. On n'est pas, à ce moment-là, disciple de Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Les vrais disciples sont comme Jésus. Ils sont enseignés directement par Dieu. Dans Joël 2:28, vous connaissez sans doute cette prophétie. Après cela, après la venue du Saint-Esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. N'est-ce pas, quand on le relit comme ça avec cette parole qu'on vient de lire dans Ésaïe, ça prend une toute autre dimension. Ce n'est pas quelque chose d'anarchique qui se met en place. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans les enfants de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Dieu. Un peu plus loin dans Ésaïe, chapitre 54. Nous avons encore une référence aux disciples. Au verset 13. Donc là, ça s'adresse vraiment directement aux disciples de l'Éternel, à nous. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. N'est-ce pas, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Pas une fraction comme dans l'Ancienne Alliance, où il y avait juste le peuple d'Israël. Mais tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi, n'est-ce pas, ceux qui étaient les prophètes désignés. Il y avait les prophètes connus, il y avait aussi les rois qui prophétisaient. Mais il y avait aussi, apparemment, des prophètes moins connus et d'autres qui prophétisaient parce que Dieu avait choisi qu'ils prophétiseraient. Il y a une histoire entre, je ne sais plus trop où la trouver, mais entre Josué et Moïse. Il y avait un rassemblement prévu avec des prophètes et certains n'étaient pas venus. Et donc il y avait ceux qui n'étaient pas deux de ceux qui n'étaient pas venus, je ne sais plus, faut retrouver le terme, ils commençaient à prophétiser dans le camp. Et Josué a dit à Moïse, les deux là, ils sont pas à la réunion et ils prophétisent. Et Moïse lui répond, mais Josué, tu es jaloux que tout le monde puisse prophétiser comme eux prophétisent. Il lui répond. Il faudra retrouver le passage, mais c'est une histoire assez intéressante, en fait. Et ce que Moïse dit, finalement, c'est aussi prophétique, d'une certaine manière, de ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que tous soient prophètes. Alors vous me direz, oui, mais l'apôtre Paul dit, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent en langue? Oui et non. C'est-à-dire c'est selon Dieu, en fait. C'est selon Dieu. Et même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à ces deux garçons la capacité à prophétiser alors qu'ils n'étaient pas initialement destinés à faire cela. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Peut-être dans Nombre 11, 29. Je crois que c'est la référence que je cherche. À partir du verset 24, je vais lire toute l'histoire. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes ?» Remarquable !« Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes » Est-ce que ça, c'est notre désir ? Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. C'est ça l'Église. L'Église est là. C'est la réponse à Moïse. Tous prophètes. Parce que tous nous devons entendre, avoir l'oreille du disciple. Tous, nous devons pouvoir donner un mot, une parole, en temps voulu, à ceux qui sont abattus, à ceux qui ont besoin d'entendre la voix de l'Évangile. Dans chapitre 54 et au verset 3, donc remontez juste un tout petit peu. Pardon, Ésaïe, qu'est-ce que j'ai dit ? Ésaïe 54, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Là, on a l'impression qu'il s'agit d'une guerre, mais en réalité, n'est-ce pas, Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui, par sa descendance. Et la bénédiction des nations, en fait, l'envahissement de ces nations se fait bien évidemment par la parole de Dieu. Toutes les nations seront envahies par la parole de Dieu. Hein, Jésus avait envoyé les disciples pour évangéliser le monde et pour que toutes peuples et nations entendent la parole. Et donc, la bénédiction des nations se fait en ce moment même par la parole et souvent au prix de la vie des disciples. Vous serez mes témoins, a dit Jésus. Et vous savez sans doute que le terme témoin, le grec, c'est martus, qui signifie martyr. Quand Jésus dit « vous serez mes témoins », il y a toujours derrière cette possibilité que le témoin meure pour le travail qu'il est en train d'accomplir pour le Seigneur Jésus. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui laissent leur vie pour l'annonce de l'Évangile pour que cette parole de Christ puisse arriver au fin fond de la terre. Toutes les prophéties qu'on vient de lire, Jésus les valide lui-même dans Jean. Jean 6, verset 45, où il cite lui-même et il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et donc, l'Église se dévoile peu à peu dans la prophétie jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne et que Jésus lui-même commence à parler dans son ministère et qu'il prononce ces paroles qu'on a lues plusieurs fois déjà concernant son ecclésia, son Église. Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus dit ça. Là aussi, c'est intéressant et important de se remettre dans le contexte de l'époque. Jésus dit ces paroles à un peuple qui pense faire partie de l'ecclésia de Dieu. Un peuple à qui on a enseigné depuis des centaines d'années qu'ils font partie de ce même peuple qui était là réuni dans le désert, qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils sont l'Église particulière, le peuple choisi de Dieu, qui est vrai. Et Jésus vient et il leur dit: je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon Église. Donc on peut imaginer la gêne que ça a pu produire dans le cœur des gens. On peut aussi imaginer que ces paroles étaient provocantes pour les scribes et les pharisiens qui avaient le nez dans la Torah et qui était capable de vous réciter sans doute la Torah par cœur. Qu'est-ce que ce type vient faire là, à nous annoncer qu'il va bâtir son Église, alors que nous faisons partie de la grande Église de Dieu, et que nous sommes son peuple choisi, chéri? Il veut monter sa secte. Et Jésus ne s'arrête pas à leur dire « je bâtirai mon Église ». Il leur donne aussi la loi de son Église. N'est-ce pas? Vous allez dans Matthieu 5 et vous le lisez. On appelle le sermon sur la montagne. Heureux, heureux, heureux. C'est important, lisez-le. En réfléchissant à ce contexte, n'est-ce pas, Jésus vient et dit: je bâtirai mon Église. Et voici, vous avez eu une loi. On vous a dit, mais moi je vous dis que... Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et aussi, d'une certaine manière, il a dit: voici mon peuple. N'est-ce pas? Il y avait ses disciples autour de lui, et c'était le début de son peuple qui était là. C'était le début de l'Église. Puisque les disciples ensuite sont partis, et ils ont annoncé l'Évangile. Ils ont annoncé l'Évangile à des hommes et des femmes qui l'ont reçu.
et qui sont eux-mêmes devenus des disciples. Écoutant, ayant une oreille pour entendre la voix de Dieu et d'être enseignés par lui. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont parlé à d'autres, qui ont parlé à d'autres, qui ont parlé à d'autres. Et aujourd'hui, l'Église se répand sur la surface de la terre entière. Et Jésus la garde. Jésus la protège. Jésus la nourrit. Jésus l'abreuve. Et cette Église est parfaite. Et les représentations locales de cette Église, ce n'est pas l'Église pentecôtiste, ce n'est pas l'Église baptiste, ce n'est pas l'Église du machin. Les représentations locales de l'Église de Christ sont toutes celles qui partagent les mêmes caractéristiques que l'Église de Christ dont nous avons parlé déjà vendredi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Sachant que Jésus a dit aux disciples, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça, c'est aussi une prophétie. Et donc, cet après-midi, j'avancerai un peu sur ce thème de l'Église en effleurant, de façon sans doute très insatisfaisante pour certains, le comment l'Église. Mais voilà. Voilà, merci. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'Église. Seigneur, merci pour ta patience, parce que nous comprenons, parce que nous disons parfois que nous comprenons les choses, alors qu'en réalité, on les a compris qu'à moitié ou même à peine. Et à fur et à mesure, Seigneur, qu'on plonge dans ta parole, tu dévoiles ces choses. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons considérer que l'Église que toi tu fais, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Seigneur, et nous voulons faire les choses telles que toi tu veux les faire. Parce que nous savons qu'il y a dans la vie des choses qui ont une portée éternelle, et d'autres choses qui ne comptent absolument pas. Seigneur, c'est toi qui nous as donné notre vie et les secondes, chaque seconde de notre temps. Et nous voulons les utiliser, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, donne-nous des oreilles de disciples pour entendre ta voix. Et Seigneur, que dans les choses que nous prononçons, les paroles que nous disons, il y ait aussi, Seigneur, la puissance de Dieu pour accomplir ces choses. Seigneur, nous sommes entièrement dépendants de toi. Parce que le cep, c'est toi. Nous, nous ne sommes que les sarments. Et si le cep s'arrête de couler, la sève s'arrête de couler dans le cep, eh bien, nous mourrons. Et Seigneur, merci de nous garder en vie. Merci de nous garder attachés à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.